Le journal Sébastien Paour.
Bonsoir à tous. À la une ce soir, les hauts et les bas de Bernard Tapie, condamné au civil, a remboursé plus de 400 millions d'euros dans l'arbitrage Crédit Lyonnais. Relaxé au pénal, soulagement de l'homme d'affaires atteint d'un cancer et du patron d'Orange qui peut rester à son poste. Des taxes sur chaque billet d'avion pour financer les transports. Les compagnies dénoncent des mesures incompréhensibles et 2 centimes de moins par litre sur le remboursement du gazole pour les routiers. Guère plus heureux, vous verrez. Au sommaire également ce soir, la ligne SOS BAC de la FCPE pour les parents pleins de questions. Fauné ou vrai oral, les candidats En Marche pour Paris devant la commission d'investiture du parti. La nouvelle victoire de l'équipe de Julien Alaphilippe sur le Tour de France, le Français reste en jaune. Et au téléphone sonne, bonsoir Claire Servageant.
Bonsoir Sébastien Paour. Eh bien, on va parler de la proposition de loi destinée à lutter contre la haine en ligne. Elle a été adoptée par les députés cet après-midi. Elle doit passer devant le Sénat à l'automne. On verra ce que contient précisément cette loi, puis on se demandera surtout si elle a des chances d'être appliquée, sachant que ce sont les plateformes qui vont devoir faire le ménage chez elles en quelque sorte. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. 01 45 24
7000. Rendez-vous dans 20 minutes, Claire Servageant. La saga a déjà connu pas mal de rebondissements en plus de 25 ans. L'épisode d'aujourd'hui en est assurément un de plus. Cette affaire, c'est l'arbitrage Tapie pour lequel un rappel s'impose. Alors prenez des notes. L'homme d'affaires estime qu'il a été floué par le Crédit Lyonnais au moment de la revente d'Adidas. On est en 93. Il obtient près de 404 millions d'euros de dédommagement 15 ans plus tard grâce à un arbitrage qu'il aurait obtenu avec l'aide d'un des 3 arbitres et en faisant jouer ses contacts en Sarkozy, notamment Stéphane Richard, à l'époque directeur de cabinet de la ministre de l'économie Christine Lagarde. Bernard Tapie a été condamné au civil, il doit toujours rembourser les 400 et quelques millions. Et le voilà donc relaxé au pénal. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Le tribunal, Charlotte, prononce d'ailleurs une relaxe générale.
Il apparaît que l'ensemble des griefs retenus à l'encontre de Bernard Tapie soit ne lui sont pas imputables personnellement, soit ne sont pas caractérisés. C'est ainsi que le tribunal correctionnel de Paris a prononcé la relaxe de l'homme d'affaires ce matin, suscitant soupirs et même larmes de soulagement sur les bancs de la défense. Le tribunal qui poursuit, il n'est pas rapporté la preuve que Bernard Tapie ait demandé directement ou ait activé ses réseaux pour que des instructions soient données en sa faveur à qui que ce soit. Et l'idée est la même pour les 5 autres prévenus. Manque de preuves. On en est donc bien loin des réquisitions du parquet. 5 ans de prison contre Bernard Tapie, 3 ans dont la moitié avec sursis contre Stéphane Richard, aujourd'hui PDG d'Orange. Bien loin de la fraude d'une singularité particulière, pour reprendre les termes du réquisitoire.
Alors Bernard Tapie est donc relaxé alors qu'il a été condamné au civil.
Tout comme d'ailleurs Christine Lagarde, condamnée elle aussi fin 2016 par la Cour de justice de la République, seule compétente du fait de son statut de ministre au moment des faits. Bernard Tapie a donc été condamné définitivement dans ce dossier par la justice civile, c'était en 2015, condamné à rendre l'intégralité de la somme obtenue via cet arbitrage, soit, si l'on inclut les intérêts, un peu plus de 525 millions d'euros qu'il a commencé à rembourser. Et même si ce grand écart, 2 condamnations d'un côté et une relaxe générale de l'autre dans le même dossier peut étonner, même si les avocats de Bernard Tapie hurlent à l'incohérence entre les décisions, cette différence d'analyse est juridiquement possible. Il s'agit tout simplement de juridictions distinctes et totalement indépendantes l'une de l'autre. Et si la décision civile pour Bernard Tapie est définitive, il est contraint de rembourser cette somme faramineuse. L'autre, le jugement pénal rendu ce matin, ne l'est pas forcément. Le parquet de Paris étudie en ce moment l'opportunité de faire appel, ce qui ouvrirait la voie à un nouveau procès et une nouvelle décision.
Et en attendant ce possible appel, merci Charlotte Piret pour ces explications. Soulagement donc d'abord chez Bernard Tapie, absent au jugement à cause de son cancer, qui, dit-il, en prend un sale coup dans la gueule, je ferme les guillemets. Voici son avocat Hervé Temim.
Il était très très ému, très très ému. La certitude qu'on avait raison, qu'il avait raison, était si grande chez lui que malgré les craintes qu'on pouvait légitimement avoir, compte tenu justement de toutes les décisions qui était intervenu avant celle-ci, était si forte que ça a été, je crois, une joie extraordinaire. Vous savez, je pense, moi, que dans cette procédure pénale, nous avons été, depuis le premier jour, les dindons de la farce, victimes d'une procédure qui n'était faite que pour alimenter des décisions civiles qui me paraissent totalement illégitimes aujourd'hui.
Et soulagement également chez Orange, le PDG Stéphane Richard peut rester en poste pour un troisième mandat. Soulagement aussi sans doute un peu chez son ancienne patronne Christine Lagarde, future présidente de la BCE. On en parlait avec Charlotte tout à l'heure.
Et maintenant, Sébastien, le gouvernement qui rajoute des taxes aux transports aériens et routiers.
Pour financer les infrastructures, notamment le train autour des grandes villes, via une réduction de l'avantage fiscal sur le gazole accordé aux routiers, vous verrez dans un instant qu'ils ne sont pas contents, évidemment, et via une écotaxe sur le transport aérien qui n'est pas content du tout non plus. Bonsoir Philippe Lefebvre.
Bonsoir.
Cette éco-contribution rapportera 180 millions d'euros et elle sera mise en place l'an prochain sur tous les vols au départ de la France.
Oui, et je peux vous dire que ça râle ce soir dans les compagnies aériennes à l'image d'Air France qui, dans un communiqué, qualifie cette décision d'extrêmement pénalisante puisque, vu le nombre d'avions de la compagnie nationale qui décollent chaque jour des aéroports français, ça fait à peu près 1200 vols, eh bien Air France sera de fait la compagnie la plus taxée. Et la colère est grande dans toutes les compagnies, puisqu'Elisabeth Borne a précisé dans la foulée que l'argent de cette taxe servirait à financer d'autres modes de transport comme le train. Et ça, pour Jean-Louis Domignac, le président du syndicat des compagnies aériennes autonomes, ça ne passe pas.
Ça, ce sera simplement une sixième taxe qui est supposée être réinvestie dans des infrastructures, dit-elle, moins polluantes, et notamment le ferroviaire. Donc, c'est-à-dire que comment notre concurrent principal va se faire financer par une taxe venant du transport aérien. Concurrent d'ailleurs, dont on pourrait se demander quand même s'il est quand même moins polluant.
Autre inquiétude pour Thomas Juin, c'est le président de l'Union des aéroports français, c'est que cette taxe crée une distorsion de concurrence au niveau européen.
On est dans un mécanisme qui revient à une taxation franco-française comme on l'a connue dans le passé et qui s'aggrave. Donc nous sommes en effet à la fois surpris et inquiets de cette évolution.
Et dans les aéroports de province, on redoute que cette nouvelle taxe incite les compagnies low cost, notamment où chaque euro compte, à supprimer purement et simplement des lignes.
L'autre mesure du jour, merci Philippe Lefebvre, qui rapportera, elle, 140 millions d'euros. C'est donc la réduction du remboursement partiel de la taxe sur le gasoil dont bénéficie le transport routier de marchandises, remboursement réduit de 2 centimes par litre. Les routiers reçus au ministère d'Elisabeth Borne sont ressortis en colère. Colère partagée par Catherine Ponce, déléguée générale de l'UNOSTRA, qui représente les petites entreprises du secteur. Elle est ici au téléphone de Laurent Kramer.
De nous annoncer cette augmentation du carburant, plus d'autres certainement qui vont arriver. C'est inacceptable pour la profession. En 2020, les entreprises vont se voir taxées beaucoup plus lourdement qu'en 2019. Je parle des entreprises de transport. Donc notre inquiétude est grande et l'inquiétude des transporteurs dans les régions est grande également. Ils ont eu particulièrement à souffrir du mouvement des gilets jaunes comme toutes les entreprises pendant 5 mois et les transporteurs sont fortement remontés. Donc ces 140 millions vont être affectés au transport ferroviaire. On sait pertinemment qu'en France, le transport ferroviaire est en déficit permanent depuis des décennies. Jusqu'à quand le transport routier va financer un dispositif en perte de course? C'est inacceptable.
Alors ces deux mesures annoncées après le Conseil de défense écologique ont surpris tout le monde. Bonsoir Cyril Graziani.
Bonsoir.
C'est directement l'Élysée qui fait ruisseler du verre, c'est ça?
Des paroles et des actes. Il y avait eu les slogans « Make our planet great again ». Il y a les mesures concrètes. À son départ, Nicolas Hulot avait expliqué que les petits pas n'étaient pas suffisants pour faire face à la tragédie climatique. Cette éco-contribution montre qu'Emmanuel Macron entame concrètement son écolo-conversion. Tout récemment, le chef de l'État confiait que sur ce sujet, il avait la foi des convertis récents, influencés par la mobilisation de la jeunesse en fin d'année dernière. Mettre à contribution l'aérien, le BTP, les routiers plutôt que les ménages, c'est une réponse à ce partage des efforts réclamé par les gilets jaunes. Ces mesures, c'est aussi une réponse au Haut Conseil pour le climat qui a accusé le gouvernement de ne pas aller assez vite. Voilà la cohérence, répond un ministre. Mais alors, que reste-t-il à la Convention citoyenne, ce groupe composé de 150 personnes tirées au sort, chargées de proposer des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Un ministre de haut rang égrène les sujets encore en suspens, la taxe carbone, la place des véhicules dans les centres-villes, la rénovation énergétique, largement de quoi faire.
Cyril Graziani, et puis en lien avec ces annonces, Paris se déclare, comme beaucoup de villes dans le monde, en état d'urgence climatique pour tenir les objectifs de l'accord de Paris de 2015.
Les oraux du bac ne sont pas terminés, la polémique non plus.
100 000 lycéens convoqués jusqu'à demain au rattrapage et parfois sans notes, parce que la copie retenue par des enseignants opposés à la réforme Blanquer n'a pas pas été rendus. Le ministère a alors pris en compte le contrôle continu. Ce n'est pas juste pour la FCPE, premier syndicat de parents d'élèves, qui dénonce une inégalité de traitement et qui ouvre une ligne téléphonique de conseil, Alexis Morel, aux parents un peu perdus.
SOS BAC, bonjour.
Depuis 10 heures ce matin au siège de la FCPE, ils sont 7 à répondre simultanément aux appels de familles inquiètes et ça n'arrête pas.
Donc vous pensez bien que pour nous c'est choquant?
Moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'écrire au rectorat pour demander la prise en compte des notes de contrôle continu.
Beaucoup de questions sur les règles imaginées par le ministère après la rétention des notes. Colette est juriste, représentante FCPE en Seine-Saint-Denis.
J'ai eu un papa tout à l'heure, il comprend pas, il fait face à la détresse de son enfant. Il y a un sentiment d'injustice que développe son enfant. L'enfant qui se dit, oui, bah, si moi j'avais eu le contrôle continu, je l'aurais, mon bac. Il ne trouve pas normal que pour d'autres élèves, on ait pris en compte le contrôle continu, alors que là, en l'occurrence, ils ont eu la malchance d'avoir la note du bac. Il y a des parents qui me disent, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je leur ai demandé de contacter un avocat pour envisager la possibilité d'un recours administratif fondé sur la rupture d'égalité.
Des recours envisagés par quelques-uns, mais la majorité des parents qui appellent n'en sont pas là. La plupart des questions concernent surtout les moyens de consulter une copie ou de vérifier une note en cas de doute. Les réponses sont parfois hésitantes. Ces bénévoles le reconnaissent face à cette situation inédite, ils naviguent un peu à vue.
Ambiance d'examen aussi à la Commission nationale d'investiture de la République en marche. Rendez-vous important pour les trois candidats à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, Cédric Villani et Hugues Granson. Bonsoir Karine Bécard.
Bonsoir.
1 heure voire 1h30 de grand oral pour chacun avant le verdict peut-être demain. Karine, est-ce que cette CNI était vraiment là pour les écouter?
Ah bah c'est vrai toute la question qui se posait. Est-ce que les jeux, avant même de commencer à discuter, étaient déjà faits? Eh bien, ce n'est pas l'impression qui se dégage après cette série d'auditions. Au contraire, Hugues Granson, qui a été le premier à passer et qui était l'un des plus critiques vis-à-vis de cette CNI, est sorti finalement confiant, convaincu d'avoir marqué des points.
C'était en tout cas une audition très riche, très dense. J'ai eu le sentiment d'avoir été écouté, entendu. Et maintenant, je me remets à la décision de la commission d'investiture.
Même discours tenu par Benjamin Griveaux, l'archi-favori, qui est arrivé au QG du parti, entouré de plusieurs députés de Paris. Manière de dire, bien sûr, qu'il est entouré et qu'il s'est rassemblé. Il respectera, promis juré, le choix de la CNI. Mais il faut maintenant, pour lui, surtout se dépêcher.
Je crois qu'il est temps que nous puissions entrer en campagne. Parce que face à nous, nous avons une maire de Paris qui, elle, est en campagne depuis un an, qui dégaine une proposition par semaine et qui a les moyens de la ville pour faire cette campagne.
Alors, contrairement aux deux autres candidats, Cédric Villani, le dernier auditionné, avait lui organisé un véritable comité d'accueil à sa sortie. Des soutiens, des amis étaient là. Le mathématicien est apparu il y a quelques minutes à peine de cela, très déterminé et persuadé qu'il est le seul ce soir à pouvoir être investi.
À l'issue de cet échange ouvert avec la commission, j'ai acquis la conviction que je dois être investi pour apporter demain à Paris le renouvellement, un projet politique qui se base sur la nouveauté.
Alors il faut désormais patienter jusqu'à demain soir, le temps pour la CNI de trancher, de trouver qui, face à Anne Hidalgo, a la capacité de gagner. Le temps aussi probablement de discuter un peu avec l'Élysée.
Alors rendez-vous peut-être demain. Merci Karine Bécard à la commission d'investiture d'En Marche avec Mathieu Perrault. Canal+ confirme un plan de départ jusqu'à 492 suppressions de postes sur 2600 salariés. La chaîne filiale de Vivendi doit se restructurer face à la concurrence notamment des Bing Sport, des SFR, Netflix et autres. Amazon Prime.
Il est 19h14 sur France Inter. On passe, Sébastien, à l'actualité internationale. Au Royaume-Uni, le principal parti d'opposition réclame un nouveau référendum.
Oui, le Labour de Jeremy Corbyn met au défi le futur Premier ministre conservateur et il assure, Marina Daras, qu'il votera pour rester dans l'Union.
Après 3 ans d'incertitude, Jeremy Corbyn ose enfin prendre position sur le Brexit. Il a très longtemps hésité, ne voulant pas frustrer une partie de son électorat qui avait voté pour le Brexit, ni mettre en danger certains députés travaillistes qui siègent dans des circonscriptions à majorité pro-Brexit. Mais après des élections européennes désastreuses pour le parti, beaucoup de députés travaillistes réclamaient un changement par peur de voir son électorat fuir vers des partis plus engagés comme les Verts ou les libéraux-démocrates. Après des semaines de dialogue avec les syndicalistes et membres de son parti, Jeremy Corbyn a finalement tranché et mis au défi le futur Premier ministre conservateur d'organiser un nouveau référendum sur le Brexit, affirmant qu'il militerait pour sa part pour rester dans l'Union européenne afin d'empêcher un Brexit sans accord ou un Brexit dur et néfaste pour le pays. De quoi réjouir le numéro 2 du parti, Tom Watson, qui voulait faire des travaillistes un parti clairement pro-européen. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
De nouveau naufragé, sauvé en Méditerranée, le navire humanitaire Alan Kurdi de l'ONG allemande SIA vient de récupérer 44 migrants au large de la Libye. Malte a accepté de les accueillir. Et pendant ce temps, en Sicile, l'ancien plus grand centre européen d'accueil de demandeurs d'asile ferme ses portes. Mineo, où s'est rendu Matteo Salvini, suivi par Mathilde Imberti.
Les derniers demandeurs d'asile ont été évacués le 2 juillet, il y a une semaine, pour faire place à Matteo Salvini. Des carcasses de vélos, des matelas, des chiens errants laisse deviner une présence humaine récente à Mineo. Les forces de sécurité encadrent le ministre dans ce paysage désertique et sous une température de 45 degrés, il vient se féliciter de la fermeture du centre.
C'est un centre qui a accueilli jusqu'à 4000 personnes par le passé. Nous avons réduit ce nombre petit à petit et aujourd'hui, c'est zéro. Le résultat, c'est la tranquillité pour ce territoire. Et nous récupérons les 150 hommes et femmes des forces de l'ordre qui devaient surveiller ces individus jour et nuit. J'étais un des seuls à croire que l'on réussirait à fermer ce centre. Tous ces grands centres en Italie qui sont autant de sous gaspillés.
Le ministre Salvini parle de tranquillité. Mineo a défrayé la chronique avec un meurtre à l'intérieur du centre, une femme tuée par son compagnon, des conflits sporadiques, des deals variés au fil des années. Il était devenu ingérable, effectivement, raconte ceux qui y travaillaient. Mais tout cela aurait pu bien se passer avec une vraie politique d'intégration, argumentent ces Siciliens, très opposés au gouvernement. Une manifestation, d'ailleurs, a accueilli le ministre à Mineo et un autre cortège réunissait les travailleurs, se retrouvant sans emploi avec la fermeture du centre. Matteo Salvini est reparti à Rome après une heure et demie de visite et quelques slogans hostiles sans faire de selfie, ce qui est très rare. À Mineo, en Sicile, Mathilde Imberti, France Inter.
La mort de Ross Perot aux États-Unis, le milliardaire texan, deux fois candidat indépendant à la Maison-Blanche en 92 et 96, avait une leucémie et 89 ans. Le journal du Tour, quatrième étape aujourd'hui entre Reims et Nancy. Bonsoir Fabrice Rigobert.
Bonsoir Sébastien.
Alaphilippe reste en jaune et son équipe remporte une deuxième victoire en deux jours.
Et oui, la fête continue pour De Koenig. Quick-step après Julian Alaphilippe à Épernay, son coéquipier Elia Viviani, avec qui il trinquait hier soir encore au Champagne, s'est imposé en force à Nancy, 5 ans après un autre Italien, Matteo Trentin. À 30 ans, le champion olympique sur piste à Rio a dominé dans un exercice pour pur sprinter. Le Norvégien Christophe et le maillot vert Peter Sagan, rien que ça, de quoi exulter avec ses coéquipiers juste après la ligne d'arrivée.
On avait raté la première chance de prendre le maillot jaune, mais la victoire phénoménale de Julian a soudé l'équipe. Aujourd'hui, on a fait la course parfaite. J'ai gagné sur le Giro et la Vuelta, jamais sur le Tour. Ça représente beaucoup pour moi.
Elia Viviani emmené dans le dernier kilomètre par le maillot jaune. Lui-même, oui, Julian Alaphilippe qui a eu le temps d'étraîner toute cette journée sa précieuse tunique.
J'ai passé une journée juste incroyable. J'ai jamais été autant encouragé de ma vie. C'est un sentiment vraiment spécial. J'ai profité de chaque kilomètre aujourd'hui. J'ai été très bien protégé par mon équipe et on a fait un grand travail dans le final pour Elia qui va chercher une belle victoire. Donc c'est difficile de faire une meilleure journée que ça.
Des dizaines de personnes entouraient le bus de l'équipe avant le départ de l'étape. Julian Alaphilippe à sa sortie sur le podium protocolaire au départ et sur la route et à l'arrivée. Un public conquis à l'image de Pauline et Justine.
Allez, faut faire des petits photos.
Ça fait 2 ans qu'on le suit sur toutes les courses et ce qu'on aime c'est son panache. Ce qu'on aime c'est qu'il est toujours à l'attaque, qu'il est toujours à l'offensive, qu'il dit toujours qu'il va gagner des grandes courses et il le fait. C'est très dur d'être favori et de gagner en étant favori, c'est énorme ce qu'il fait et je pense qu'il a fait hier, quoi. C'est énorme.
Le nom de Julian Alaphilippe, Sébastien, scandé tout au long de cette journée.
Oui, on l'entend, il fait l'unanimité dans le public comme dans le peloton.
Oui, tous ont salué la performance réalisée par le Français à Épernay et tous sont ravis de le voir en jaune en attendant les prochaines difficultés, même Guillaume Martin, pourtant leader de la Wanty.
Oui, bah parce qu'il est nature, à l'instar d'un Sagan. C'est pas quelqu'un qui surjoue un rôle. Il est cool devant vous les journalistes, mais il est comme ça dans la vie, quoi. Donc je pense que c'est ça, cette sincérité qui plaît, ouais.
La planète vélo n'a pas tourné aujourd'hui uniquement autour de Julian Alaphilippe. 3 courageux ont animé la course promise aux sprinteurs. Beckert, Char et le Français Offredo, coéquipier de Beckert, tous repris dans les 25 derniers kilomètres. Ils savaient pourtant qu'ils n'avaient aucune chance, Johan Offredo.
J'avais pas du tout prévu d'aller devant. Baki devait aller devant. Puis le pauvre, j'ai vu qu'il était tout seul. Et puis avec Char, je me suis dit qu'ils allaient passer une longue journée. Hilaire van der Skuren m'a dit relève-toi. Je lui ai dit t'es sûr? Et il m'a dit fais comme tu veux. Alors j'ai demandé à mes deux compagnons d'échapper. qu'est-ce que je devais faire. Ils m'ont dit, bah reste avec nous s'il te plaît. Vu que je suis quelqu'un de sympa, c'est ce que j'ai fait.
Et espérons que les coureurs sympas seront à l'honneur demain. Les baroudeurs entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar. Deux difficultés au programme sur 175
km. 175 km, 500 exactement. Merci Fabrice Rigobert, Hélène Langlois et toute l'équipe cycliste de Radio France sur la route donc du Tour. La météo.
La météo avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Bonsoir Élodie Calac.
Bonsoir à tous.
Une belle journée d'été demain.
Et oui, beaucoup de soleil pour commencer la journée. De la grisaille tout de même entre le sud de l'Aquitaine et le nord de Midi-Pyrénées. Et puis toujours quelques averses orageuses vers le sud des Alpes et la Corse. Un peu de vent sur le sud-est, Mistral, Tramontane, jusqu'à 60 à 70 km à l'heure. Pour les températures, seulement 8 degrés à Reims, 11 à Caen et Nancy, 15 à Paris, 16 degrés à Lyon, à Toulouse, mais 19 degrés du côté de La Rochelle, 20 à 7 et 23 à Nice.
Et l'après-midi?
Alors il ne restera que quelques averses sur la montagne corse et les Alpes du Sud. Quelques passage nuageux entre la Manche et le nord de la Seine, partout ailleurs du soleil, et puis des températures en hausse, 23 à 26 degrés près de la Manche, 25 à 31 degrés ailleurs, avec 26 à Colmar, 28 à Paris, Dijon et Clermont-Ferrand, 31 pour Nantes et pour Cognac, et jusqu'à 34 degrés du côté de Nîmes.
Élodie Calac, Météo France, merci beaucoup.